deuxième partie, chapitre 2. Néanmoins, de l'hôtel du quai Malaquais au salon de la rue de Tournon, de la rue de la Chaise et du faubourg Saint-Honoré, un lien aussi fort que détesté unissait les trois divinités déchues, desquelles j'aurais bien voulu apprendre, en feuilletant quelques dictionnaires mythologiques de la société, quelle aventure galante, quelle outrecuidance sacrilège avait amené la punition. La même origine brillante, la même déchéance actuelle, entrait peut-être pour beaucoup dans telle nécessité qui les poussait, en même temps qu'à se haïr, à se fréquenter. Puis, chacune d'elles trouvait dans les autres un moyen commode de faire des politesses à leurs visiteurs. Comment ceux-ci n'eussent-ils pas cru pénétrer dans le faubourg le plus fermé, quand on les présentait à une dame fort titrée, dont la sœur avait épousé un duc de Sagan ou un prince de Ligne? D'autant plus qu'on parlait infiniment plus dans les journaux de ces prétendus salons que des vrais. Même les neveux Gratin, à qui un camarade demandait de les mener dans le monde, Saint-Loup tout le premier, disaient « Je vous conduirai chez ma tante Villeparisis, ou chez ma tante X, c'est un salon intéressant. » Ils savaient surtout que cela leur donnerait moins de peine que de faire pénétrer les 10 amis chez les nièces ou belles-sœurs élégantes de ces dames. Les hommes très âgés, les jeunes femmes qu'il avait appris d'eux, me dirent que si ces vieilles dames n'étaient pas reçues, c'était à cause du dérèglement extraordinaire de leur conduite, lequel, quand j'objectais que ce n'est pas un empêchement à l'élégance, me fut présenté comme ayant dépassé toutes les proportions aujourd'hui connues. L'inconduite de ces dames solennelles, qui se tenaient assises toutes droites, prenait, dans la bouche de ceux qui en parlaient, quelque chose que je ne pouvais imaginer, proportionné à la grandeur des époques antéhistoriques, à l'âge du mammouth. Bref, ces trois parques à cheveux blancs, bleus ou roses, avaient filé le mauvais coton d'un nombre incalculable de messieurs. Je pensais que les hommes d'aujourd'hui exagéraient les vices de ces temps fabuleux, comme les Grecs qui composèrent Icare, Thésée, Hercule, avec des hommes qui avaient été peu différents de ceux qui longtemps après les divinisaient. Mais on ne fait la somme des vices d'un être que quand il n'est plus guère en état de les exercer, et qu'à la grandeur du châtiment social, qui commence à s'accomplir et qu'on constate seul, on mesure, on imagine, on exagère celle du crime qui a été commis. Dans cette galerie de figures symboliques qu'est le monde, les femmes véritablement légères, les messalines complètes, présentent toujours l'aspect solennel d'une dame d'au moins 70 ans, hautaine, qui reçoit tant qu'elle peut, mais non qui elle veut, chez qui ne consentent pas à aller les femmes dont la conduite prête un peu à redire, à laquelle le pape donne toujours sa rose d'or, et qui quelquefois a écrit sur la jeunesse de Lamartine un ouvrage couronné par l'Académie française. « Bonjour, Alix, » dit madame de Villeparisis à la dame à coiffure blanche de Marie-Antoinette, laquelle dame jetait un regard perçant sur l'assemblée afin de dénicher s'il n'y avait pas dans ce salon quelque morceau qui pût être utile pour le sien, et que, dans ce cas, elle devrait découvrir elle-même, car madame de Villeparisis, elle n'en doutait pas, serait assez maligne pour essayer de le lui cacher. C'est ainsi que madame de Villeparisis eut grand soin de ne pas présenter Bloch à la vieille dame, de peur qu'il ne fût joué la même scénette que chez elle dans l'hôtel du quai Malaquais. Ce n'était d'ailleurs qu'un rendu, car la vieille dame avait eu la veille madame Ristori, qui avait dit des vers, Et avais-tu soin que Madame de Villeparisis, à qui elle avait chipé l'artiste italienne, ignora l'événement avant qu'il fût accompli. Pour que celle-ci ne l'apprît pas par les journaux et ne s'en trouvât pas froissée, elle venait le lui raconter, comme ne se sentant pas coupable. Madame de Villeparisis, jugeant que ma présentation n'avait pas les mêmes inconvénients que celle de Bloch, me nomma à la Marie-Antoinette du Quai. Celle-ci, cherchant, en faisant le moins de mouvements possible, à garder dans sa vieillesse cette ligne de déesse de Coisevox, qui avait, il y a bien des années, charmé la jeunesse élégante, et que de faux hommes de lettres célébraient maintenant dans des bourrimées, ayant pris d'ailleurs l'habitude de la raideur hautaine et compensatrice, commune à toutes les personnes qu'une disgrâce particulière oblige à faire perpétuellement des avances, abaissa légèrement la tête avec une majesté glaciale et, la tournant d'un autre côté, ne s'occupa pas plus de moi que si je n'eusse pas existé. Son attitude à double fin semblait dire à Madame de Villeparisis « Vous voyez que je n'en suis pas à une relation près et que les petits jeunes, à aucun point de vue, mauvaise langue, ne m'intéressent pas. » Mais quand, un quart d'heure après, elle se retira, profitant du tohu-bohu, elle me glissa à l'oreille de venir le vendredi suivant dans sa loge, avec une des trois dont le nom éclatant, elle était d'ailleurs née Choiseul, me fit un prodigieux effet. « Monsieur, je crois que vous voulez écrire quelque chose sur Madame la Duchesse de Montmorency, » dit Madame de Villeparisis à l'historien de la Fronde, avec cet air bougon dont, à son insu, sa grande amabilité était froncée par le recroquevillement boudeur, le dépit physiologique de la vieillesse, ainsi que par l'affectation d'imiter le ton presque paysan de l'ancienne aristocratie. « Je vais vous montrer son portrait, l'original de la copie qui est au Louvre. » Elle se leva, en posant ses pinceaux près de ses fleurs, et le petit tablier qui apparut alors à sa taille et qu'elle portait, pour ne pas se salir avec ses couleurs, ajoutait encore à l'impression presque d'une campagnarde que donnaient son bonnet et ses grosses lunettes, et contrastait avec le luxe de sa domesticité, du maître d'hôtel qui avait apporté le thé et les gâteaux, du valet de pied, en livrée, qu'elle sonna pour éclairer le portrait de la duchesse de Montmorency, abbesse dans un des plus célèbres chapitres de l'Est. Tout le monde s'est élevé. « Ce qui est assez amusant, dit-elle, c'est que dans ces chapitres où nos grand-tantes étaient souvent abbesses, les filles du roi de France n'eussent pas été admises. C'étaient des chapitres très fermés. « Pas admises, les filles du roi, pourquoi cela ? » demanda Bloch stupéfait. « Mais parce que la maison de France n'avait plus assez de quartier depuis qu'elle s'était mésalliée. » L'étonnement de Bloch allait grandissant. « Mésalliée ? La maison de France ? Comment ça ?»« Mais en s'alliant aux Médicis, » répondit Madame de Villeparisis du ton le plus naturel. « Le portrait est beau, n'est-ce pas ? Et dans un état de conservation parfaite, » ajouta-t-elle. « Ma chère amie, » dit la dame coiffée à la Marie-Antoinette, « vous vous rappelez que, quand je vous ai amené Litz, il vous a dit que c'était celui-là qui était la copie. Je m'inclinerai devant une opinion de Litz en musique, mais pas en peinture. D'ailleurs, il était déjà gâteux, et je ne me rappelle pas qu'il ait jamais dit cela. Mais ce n'est pas vous qui me l'avez amené. J'avais dîné 20 fois avec lui chez la princesse de Saint-Wittgenstein. » Le coup d'Alix avait raté. Elle se tut, resta debout et immobile. Des couches de poudre plâtrant son visage, celui-ci avait l'air d'un visage de pierre. Et comme le profil était noble, elle semblait, sur un socle triangulaire et moussu caché par le mantelé, la déesse effritée d'un parc. « Ah, voilà encore un autre beau portrait !» dit l'historien. La porte s'ouvrit et la duchesse de Guermantes entra. « Tiens, bonjour !» lui dit sans un signe de tête Madame de Villeparisis en tirant d'une poche de son tablier une main qu'elle tendit à la nouvelle arrivante, et cessant aussitôt de s'occuper d'elle pour se retourner vers l'historien. « C'est le portrait de la duchesse de La Rochefoucauld. » Un jeune domestique, à l'air hardi et à la figure charmante, mais rognée si juste pour rester aussi parfaite, que le nez un peu rouge et la peau légèrement enflammée, semblait garder quelques traces de la récente et sculpturale incision, entra, portant une carte sur un plateau. « C'est ce monsieur qui est déjà venu plusieurs fois pour voir madame la marquise. »
« Est-ce que vous lui avez dit que je recevais ?»
Il a entendu causer.
« Eh bien, soit, faites-le entrer. C'est un monsieur qu'on m'a présenté, »
dit madame de Villeparisis.
« Et il m'a dit qu'il désirait beaucoup être reçu ici. Jamais je ne l'ai autorisé à venir. Mais enfin, voilà 5 fois qu'il se dérange. Il ne faut pas froisser les gens.
« Monsieur, » me dit-elle, « et vous, monsieur ?» ajouta-t-elle en désignant l'historien de la Fronde.
« Je vous présente ma nièce, la duchesse de Guermantes. »
L'historien s'inclina profondément, ainsi que moi, et, semblant supposer que quelque réflexion cordiale devait suivre ce salut, ses yeux s'animèrent et il s'apprêtait à ouvrir la bouche quand il fut refroidi par l'aspect de madame de Guermantes, qui avait profité de l'indépendance de son torse pour le jeter en avant avec une politesse exagérée et le ramener avec justesse sans que son visage et son regard eussent paru avoir remarqué qu'il y avait quelqu'un devant eux. Après avoir poussé un léger soupir, elle se contenta de manifester de la nullité de l'impression que lui produisait la vue de l'historien et la mienne, en exécutant certains mouvements des ailes du nez avec une précision qui attestait l'inertie absolue de son attention désœuvrée. Le visiteur importun entra, marchant droit vers madame de Villeparisis, d'un air ingénu et fervent. C'était le Grandin.
« Je vous remercie beaucoup de me recevoir, madame, » dit-il en insistant sur le mot « beaucoup ».
C'est un plaisir d'une qualité tout à fait rare et subtile que vous faites à un vieux solitaire. Je vous assure que sa répercussion...
Il s'arrêta net en m'apercevant.
Je montrais à monsieur le beau portrait de la duchesse de La Rochefoucauld, femme de l'auteur des Maximes. Il me vient de famille.
Madame de Guermantes, elle, salua Alix, en s'excusant de n'avoir pu, cette année comme les autres, aller la voir.
« J'ai eu de vos nouvelles par Madeleine, » ajouta-t-elle. « Elle a déjeuné chez moi ce matin, » dit la marquise du Quai Malaquais, avec la satisfaction de penser que madame de Villeparisis n'en pourrait jamais dire autant. Cependant, je causais avec Bloch, et craignant, d'après ce qu'on m'avait dit du changement à son égard de son père, qu'il n'enviât ma vie, je lui dis que la sienne devait être plus heureuse. Ces paroles étaient de ma part un simple effet de l'amabilité. Mais elle persuada aisément de leur bonne chance ceux qui ont beaucoup d'amour-propre, ou leur donne le désir de persuader les autres.
« Oui, j'ai en effet une vie délicieuse, » me dit Bloch d'un air de béatitude.
« J'ai 3 grands amis, je n'en voudrais pas un de plus. Une maîtresse adorable, je suis infiniment heureux. Rare est le mortel à qui le père Zeus accorde tant de félicité. »
Je crois qu'il cherchait surtout à se louer et à me faire envie. Peut-être aussi y avait-il quelque désir d'originalité dans son optimisme. Il fut visible qu'il ne voulait pas répondre les mêmes banalités que tout le monde.
« Oh, ce n'était rien, etc. »
Quant à ma question « Était-ce joli ?» posée à propos d'une matinée dansante donnée chez lui et à laquelle je n'avais pu aller, il me répondit d'un air uni et indifférent, comme s'il s'était agi d'un autre.
« Mais oui, c'était très joli, on ne peut plus réussir, c'était vraiment ravissant. »
« Ce que vous nous apprenez là m'intéresse infiniment, » dit le Grandin à madame de Villeparisis.
car je me disais justement l'autre jour que vous teniez beaucoup de lui par la netteté alerte du tour, par quelque chose que j'appellerais de deux termes contradictoires, la rapidité lapidaire et l'instantané immortel. J'aurais voulu ce soir prendre en note toutes les choses que vous dites, mais je les retiendrai. Elles sont, d'un mot qui est, je crois, de Joubert, « ami de la mémoire ». Vous n'avez jamais lu Joubert ? Oh, vous lui auriez tellement plu ! Je me permettrai dès ce soir de vous envoyer ses œuvres, très fier de vous présenter son esprit. Il n'avait pas votre force, mais il avait aussi bien de la grâce. J'avais voulu tout de suite aller dire bonjour à Legrandin, mais il se tenait constamment le plus éloigné de moi qu'il pouvait, sans doute dans l'espoir que je n'entendisse pas les flatteries qu'avec un grand raffinement d'expression, il ne cessait à tout propos de prodiguer à Madame de Villeparisis. Elle haussa les épaules en souriant, comme s'il avait voulu se moquer, et se tourna vers l'historien. « Et celle-ci, c'est la fameuse Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, qui avait épousé en première noce Monsieur de Luynes. » « Ma chère, Madame de Luynes me fait penser à Yolande. Elle est venue hier chez moi. Si j'avais su que vous n'aviez votre soirée prise par personne, je vous aurais envoyé chercher. Madame Ristori, qui est venue à l'improviste, a dit devant l'auteur des vers de la reine Carmen Silva. C'était d'une beauté !»« Quelle perfidie !» pensa Madame de Villeparisis. C'est sûrement de cela qu'elle parlait tout bas l'autre jour à Madame de Baulincourt et à Madame de Chaponnet. « J'étais libre, mais je ne serais pas venue, » répondit-elle. « J'ai entendu Madame Ristori dans son beau temps. Ce n'est plus qu'une ruine. Et puis, je déteste les vers de Carmen Silva. La Ristori est venue ici une fois, amenée par la duchesse d'Aoste, dire un chant de l'enfer de Dante. Voilà où elle est incomparable. » Alix supporta le coup sans faiblir. Elle restait de marbre. Son regard était perçant et vide, son nez noblement arqué. Mais une joue s'écaillait. Des végétations légères, étranges, vertes et roses, envahissaient le menton. Peut-être un hiver de pluie la jetterait bas. « Tenez, monsieur, si vous aimez la peinture, regardez le portrait de Madame de Montmorency. » dit Madame de Villeparisis à Legrandin pour interrompre les compliments qui recommençaient. Profitant de ce qu'il s'était éloigné, Madame de Guermantes le désigna à sa tante d'un regard ironique et interrogateur. « C'est Monsieur Legrandin !» dit à mi-voix Madame de Villeparisis. « Il a une sœur qui s'appelle Madame de Cambremer, ce qui ne doit pas du reste te dire plus qu'à moi. » « Comment ? Mais je la connais parfaitement !» s'écria en mettant sa main devant sa bouche Madame de Guermantes. « Ou plutôt, je ne la connais pas, mais je ne sais pas ce qui a pris à Bazin, qui rencontre Dieu sait où le mari, de dire à cette grosse femme de venir me voir. Je ne peux pas vous dire ce que ça a été que sa visite. Elle m'a raconté qu'elle était allée à Londres, elle m'a énuméré tous les tableaux du British, tel que vous me voyez. » En sortant de chez vous, je vais fourrer un carton chez ce monstre. Et ne croyez pas que ce soit des plus faciles, car sous prétexte qu'elle est mourante, elle est toujours chez elle. Et qu'on y aille à 7 heures du soir ou à 9 heures du matin, elle est prête à vous offrir des tartes aux fraises. Mais bien entendu, voyons, c'est un monstre, dit Madame de Guermantes à un regard interrogatif de sa tante. C'est une personne impossible. Elle dit... plumitif, enfin des choses comme ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, plumitif ?
Demanda Madame de Villeparisis à sa nièce.
Mais je n'en sais rien !
S'écria la duchesse avec une indignation feinte. Je ne veux pas le savoir, je ne parle pas ce français-là. Et voyant que sa tante ne savait vraiment pas ce que voulait dire plumitif, pour avoir la satisfaction de montrer qu'elle était savante autant que puriste, et pour se moquer de sa tante, après s'être moquée de Madame de Cambremer. « Mais si » dit-elle avec un demi-rire, que les restes de la mauvaise humeur jouée réprimaient. Tout le monde sait ça. Un plumitif, c'est un écrivain. C'est quelqu'un qui tient une plume. Mais c'est une horreur de mots. C'est à vous faire tomber vos dents de sagesse. Jamais on ne me ferait dire ça.
Comment ? C'est le frère ? Je n'ai pas encore réalisé.
Mais au fond, ce n'est pas incompréhensible. Elle a la même humilité de descente de lit et les mêmes ressources de bibliothèque tournante. Elle est aussi flagorneuse que lui et aussi embêtante. Je commence à me faire assez bien à l'idée de cette parenté.
« Assieds-toi, on va prendre un peu de thé, » dit madame de Villeparisis à madame de Guermantes.
« Sers-toi toi-même. Toi, tu n'as pas besoin de voir les portraits de tes arrière-grand-mères. Tu les connais aussi bien que moi. »
Madame de Villeparisis revint bientôt s'asseoir et se mit à peindre. Tout le monde se rapprocha. J'en profitai pour aller vers le Grandin et, ne trouvant rien de coupable à sa présence chez madame de Villeparisis, je lui dis, sans songer combien j'allais à la fois le blesser et lui faire croire à l'intention de le blesser.
« Eh bien, monsieur, je suis presque excusée d'être dans un salon, puisque je vous y trouve. »
Monsieur le Grandin conclut de ces paroles. Ce fut du moins le jugement qu'il porta sur moi quelques jours plus tard. Que j'étais un petit être foncièrement méchant qui ne se plaisait qu'au mal.
« Vous pourriez avoir la politesse de commencer par me dire bonjour, » me répondit-il, sans me donner la main et d'une voix rageuse et vulgaire que je ne lui soupçonnais pas, et qui, nullement en rapport rationnel avec ce qu'il disait d'habitude, en avait un autre plus immédiat et plus saisissant avec quelque chose qu'il éprouvait. C'est que ce que nous éprouvons, comme nous sommes décidés à toujours le cacher, nous n'avons jamais pensé à la façon dont nous l'exprimerions. Et tout d'un coup, c'est en nous une bête immonde et inconnue qui se fait entendre, et dont l'accent, parfois, peut aller jusqu'à faire aussi peur à qui reçoit cette confidence involontaire, elliptique et presque irrésistible de votre défaut ou de votre vice, que ferait l'aveu soudain, indirectement et bizarrement proféré par un criminel, ne pouvant s'empêcher de confesser un meurtre dont vous ne le saviez pas coupable. Certes, je savais bien que l'idéalisme, même subjectif, n'empêche pas de grands philosophes de rester gourmands ou de se présenter avec ténacité à l'Académie. Mais vraiment, le Grandin n'avait pas besoin de rappeler si souvent qu'il appartenait à une autre planète, quand tous ses mouvements convulsifs de colère ou d'amabilité était gouverné par le désir d'avoir une bonne position dans celle-ci. Naturellement, quand on me persécute 20 fois de suite pour me faire venir quelque part, continua-t-il à voix basse, quoique j'aie bien droit à ma liberté, je ne peux pourtant pas agir comme un rustre.
Madame de Guermantes s'était assise. Son nom, comme il était accompagné de son titre, ajoutait à sa personne physique son duché, qui se projetait autour d'elle et faisait régner la fraîcheur ombreuse et dorée des bois des Guermantes au milieu du salon, alentour du pouf où elle était. Je me sentais seulement étonnée que leur ressemblance ne fût pas plus lisible sur le visage de la duchesse, lequel n'avait rien de végétal, et où tout au plus le coupe rosé des joues, qui aurait dû, semblait-il, être blasonné par le nom de Guermantes, était l'effet, mais non l'image, de longues chevauchées au grand air. Plus tard, quand elle me fut devenue indifférente, je connus bien des particularités de la duchesse, et notamment, afin de m'en tenir pour le moment à ce dont je subissais déjà le charme alors sans savoir le distinguer, ses yeux, où était captif, comme dans un tableau, le ciel bleu d'une après-midi de France, largement découvert, baignée de lumière même quand elle ne brillait pas. Et une voix, qu'on eût cru, aux premiers sons enroués, presque canaille, où traînait, comme sur les marches de l'église de Combray ou la pâtisserie de la place, l'or paresseux et gras d'un soleil de province. Mais ce premier jour, je ne discernais rien. Mon ardente attention volatilisait immédiatement le peu que j'eusse pu recueillir,
et où j'aurais pu retrouver quelque chose du nom de Guermantes. En tout cas, je me disais que c'était bien elle que désignait pour tout le monde le nom de duchesse de Guermantes. La vie inconcevable que ce nom signifiait, ce corps la contenait bien. Il venait de l'introduire au milieu d'êtres différents, dans ce salon qui la circonvenait de toutes parts, et sur lequel elle exerçait une réaction si vive que je croyais voir, là où cette vie cessait de s'étendre, une frange d'effervescence en délimiter les frontières. Dans la circonférence que découpait sur le tapis le ballon de la jupe de Pékin bleu, et dans les prunelles claires de la duchesse, à l'intersection des préoccupations, des souvenirs, de la pensée incompréhensible, méprisante, amusée et curieuse qui les remplissait, et des images étrangères qui s'y reflétaient. Peut-être eussé-je été un peu moins ému si je l'eusse rencontré chez Madame de Villeparisis à une soirée, au lieu de la voir ainsi à un des jours de la marquise, à un de ses thés, qui ne sont pour les femmes qu'une courte halte au milieu de leur sortie, et où, gardant le chapeau avec lequel elles viennent de faire leurs courses, elles apportent dans l'enfilade des salons la qualité de l'air du dehors et donnent plus jour sur Paris à la fin de l'après-midi que ne font les hautes fenêtres ouvertes dans lesquelles on entend les roulements des victorias. Madame de Guermantes était coiffée d'un canotier fleuri de bleuet, et ce qu'il m'évoquait, ce n'était pas sur les sillons de Combray où si souvent j'en avais cueilli, sur le talus contigu à la haie de Tansauville, les soleils des lointaines années, c'était l'odeur et la poussière du crépuscule, telles qu'elles étaient tout à l'heure, au moment où Madame de Guermantes venait de les traverser, rue de la Paix. D'un air souriant, dédaigneux et vague, tout en faisant la moue avec ses lèvres serrées, de la pointe de son ombrelle, comme de l'extrême antenne de sa vie mystérieuse, elle dessinait des ronds sur le tapis. Puis, avec une attention indifférente qui commence par ôter tout point de contact avec ce que l'on considère soi-même, son regard fixait tour à tour chacun de nous, puis inspectait les canapés et les fauteuils, mais en s'adoucissant alors de cette sympathie humaine qu'éveille la présence, même insignifiante, d'une chose que l'on connaît, d'une chose qui est presque une personne. Ces meubles n'étaient pas comme nous. Ils étaient vaguement de son monde, ils étaient liés à la vie de sa tante. Puis, du meuble de Beauvais, ce regard était ramené à la personne qui y était assise, et reprenait alors le même air de perspicacité et de cette même désapprobation que le respect de Madame de Guermantes pour sa tante l'eût empêché d'exprimer. Mais enfin, qu'elle eût éprouvé si elle eût constaté sur les fauteuils, au lieu de notre présence, celle d'une tache de graisse ou d'une couche de poussière. L'excellent écrivain G. entra. Il venait faire à Madame de Villeparisis une visite qu'il considérait comme une corvée. La duchesse, qui fut enchantée de le retrouver, ne lui fit pourtant pas signe, mais tout naturellement il vint près d'elle. Le charme qu'elle avait, son tact, sa simplicité, la lui faisant considérer comme une femme d'esprit. D'ailleurs, la politesse lui faisait un devoir d'aller auprès d'elle. Car, comme il était agréable et célèbre, Madame de Guermantes l'invitait souvent à déjeuner, même en tête-à-tête avec elle et son mari. Ou l'automne, à Guermantes, profitait de cette intimité pour le convier certains soirs à dîner avec des altesses curieuses de le rencontrer. Car la duchesse aimait à recevoir certains hommes d'élite, à la condition toutefois qu'ils fussent garçons, condition que, même mariés, ils remplissaient toujours pour elle. Car, comme leurs femmes, toujours plus ou moins vulgaires, eussent fait tâche dans un salon où il n'y avait que les plus élégantes beautés de Paris, c'est toujours sans elles qu'ils étaient invités. Et le duc, pour prévenir toute susceptibilité, expliquait à ses veufs, malgré eux, que la duchesse ne recevait pas de femmes, ne supportait pas la société des femmes. presque comme si c'était par ordonnance du médecin, et comme il eût dit qu'elle ne pouvait rester dans une chambre où il y avait des odeurs, manger trop salé, voyager en arrière ou porter un corset. Il est vrai que ces grands hommes voyaient chez les Guermantes la princesse de Parme, la princesse de Sagan, que Françoise, entendant toujours parler d'elle, finit par appeler, croyant ce féminin exigé par la grammaire, la Sagante. Et bien d'autres, mais ont justifié leur présence en disant que c'était la famille ou des amis d'enfance qu'on ne pouvait éliminer. Persuadés ou non par les explications que le duc de Guermantes leur avait données sur la singulière maladie de la duchesse de ne pouvoir fréquenter des femmes, les grands hommes les transmettaient à leurs épouses. Quelques-unes pensaient que la maladie n'était qu'un prétexte pour cacher sa jalousie, parce que la duchesse voulait être seule à régner sur une cour d'adorateurs. De plus naïves encore, pensaient que peut-être la duchesse avait un genre singulier, voire un passé scandaleux, que les femmes ne voulaient pas aller chez elle, et qu'elle donnait le nom de sa fantaisie à la nécessité. Les meilleurs, entendant leur mari dire monts et merveilles de l'esprit de la duchesse, estimaient que celle-ci était si supérieure au reste des femmes qu'elles s'ennuyaient dans leur société car elles ne savent parler de rien. Et il est vrai que la duchesse s'ennuyait auprès des femmes si leur qualité princière ne leur donnait pas un intérêt particulier. Mais les épouses éliminées se trompaient quand elles s'imaginaient qu'elles ne voulaient recevoir que des hommes pour pouvoir parler littérature, science et philosophie. Car elles n'en parlaient jamais, du moins avec les grands intellectuels. Si, en vertu de la même tradition de famille, qui fait que les filles du grand militaire gardent au milieu de leurs préoccupations les plus vaniteuses le respect des choses de l'armée, petites filles de femmes qui avaient été liées avec Thiers, Mérimée et Augier, elles pensaient qu'avant tout, il faut garder dans son salon une place aux gens d'esprit, mais avaient d'autre part retenu de la façon à la fois condescendante et intime dont ces hommes célèbres étaient reçus à Guermantes le pli de considérer les gens de talent comme des relations familières dont le talent ne vous éblouit pas, à qui on ne parle pas de leurs œuvres, ce qui ne les intéresserait d'ailleurs pas. Puis le genre d'esprit Mérimée et Meillac et Halévy, qui était le sien, la portait, par contraste avec le sentimentalisme verbal d'une époque antérieure, un genre de conversation qui rejette tout ce qui est grandes phrases et expressions de sentiments élevés, et faisait qu'elle mettait une sorte d'élégance quand elle était avec un poète ou un musicien à ne parler que des plats qu'on mangeait ou de la partie de cartes qu'on allait faire. Cette abstention avait, pour un tiers peu au courant, quelque chose de troublant qui allait jusqu'au mystère. Si madame de Guermantes lui demandait s'il lui ferait plaisir d'être invité avec tel poète célèbre, dévoré de curiosité, il arrivait à l'heure dite. La duchesse parlait au poète du temps qu'il faisait. On passait à table. « Aimez-vous cette façon de faire les œufs ? » demandait-elle au poète. Devant son assentiment, qu'elle partageait, car tout ce qui était chez elle lui paraissait exquis, jusqu'à un cidre affreux qu'elle faisait venir de Guermantes. « Redonnez des œufs à monsieur !» ordonnait-elle au maître d'hôtel. Cependant que le tiers, anxieux, attendait toujours ce qu'avait sûrement eu l'intention de se dire, puisqu'ils avaient arrangé de se voir malgré mille difficultés avant son départ, le poète et la duchesse. Mais le repas continuait, les plats étaient enlevés les uns après les autres, non sans fournir à madame de Guermantes l'occasion de spirituelles plaisanteries ou de fines historiettes. Cependant, le poète mangeait toujours, sans que duc ou duchesse eussent eu l'air de se rappeler qu'il était poète. Et bientôt le déjeuner était fini, et on se disait adieu, sans avoir dit un mot de la poésie, que tout le monde pourtant aimait, mais dont, par une réserve analogue à celle dont Swann m'avait donné l'avant-goût, personne ne parlait. Cette réserve était simplement de bon ton. mais pour le tiers, s'il y réfléchissait un peu, elle avait quelque chose de fort mélancolique, et les repas du milieu Guermantes faisaient alors penser à ces heures que des amoureux timides passent souvent ensemble à parler de banalité jusqu'au moment de se quitter. Et sans que, soit timidité, pudeur ou maladresse, le grand secret qu'il serait plus heureux d'avouer ait pu jamais passer de leur cœur à leurs lèvres. D'ailleurs, il faut ajouter que ce silence gardé sur les choses profondes qu'on attendait toujours en vain le moment de voir aborder, s'il pouvait passer pour caractéristique de la duchesse, n'était pas chez elle absolu. Madame de Guermantes avait passé sa jeunesse dans un milieu un peu différent, aussi aristocratique, mais moins brillant et surtout moins futile que celui où elle vivait aujourd'hui, et de grande culture. Il avait laissé à sa frivolité actuelle une sorte de tuf plus solide, invisiblement nourricier, et où même la duchesse allait chercher, fort rarement, car elle détestait le pédantisme, quelques citations de Victor Hugo ou de Lamartine, qui, fort bien appropriées, dites avec un regard senti de ses beaux yeux, ne manquaient pas de surprendre et de charmer. Parfois même, sans prétention, avec pertinence et simplicité, elle donnait à un auteur dramatique académicien quelques conseils sagaces, lui faisait atténuer une situation ou changer un dénouement.